Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Hey, salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. J'ai reçu un courriel la semaine passée, la madame, elle me disait justement, puis j'ai oublié de vous le mentionner hier. Elle dit, tu dis tout le temps la même affaire quand tu commences. Puis là, je dis, c'est pourquoi? Puis là, je réponds à madame, tu sais, c'est un courriel super fine, madame. Ça fait deux fois même qu'elle m'envoie un courriel. Ben, elle dit, tu dis affaire trois, quatre fois, affaire, affaire. Parce que des fois, je dis, on est dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires. Mais j'essaye de changer, madame. Je vous l'aimerais pas en ondes, naturellement, c'est bien sûr. Mais j'essaye de des fois changer le début. Mais je trouve ça le fun de parler dans la jungle des affaires puis de dire que c'est 543e entrevue.
Wow!
La... Ouais, ouais, ouais. Bien content. Merci beaucoup à l'équipe, surtout, parce que ça se fait pas tout seul, là, vous le savez bien. Régent Gauthier encore avec vous pour la prochaine heure. Puis je suis bien accompagné aujourd'hui. En compagnie d'une co-animatrice, d'un jour, peut-être que ça va être plus qu'un jour à un moment donné, on le sait pas.
On sait pas.
On connaît pas l'avenir, on a Sonia Lévesque qui est avec nous. Bonjour Sonia.
Salut Reg, tu as dit qu'on
pouvait
t'appeler Reg.
Oui, je vais t'appeler So. Hey, ça va être hot, hot, hot. Sonia Lévesque, Noir Confetti.
Oui.
Ben oui.
Oui, de retour.
Hey, puis on a eu une belle entrevue, ça fait pas longtemps.
Non, j'étais à la 500... 13e
ouais.
juin.
Fait que les gens qui voudront, pour le moment, parce qu'on est en train de vous pondre, vous créer, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, un site web à la hauteur de l'équipe qui est derrière ça, parce que c'est génial. Les gars, les filles, ça travaille très, très fort. Je dis les filles parce que même la maman d'un des gars de l'équipe qui nous donne un coup de main pour justement aller chercher les 500 entrevues, 542 aujourd'hui, et les amener sur le même site web. Fait qu'on va te voir la belle bête.
Super.
Ouais. Puis on va pouvoir cliquer sur ta face avec un play. Puis on va t'entendre.
Génial.
C'est le fun, hein?
Oui.
Bon, c'était bon. En plus, je m'en rappelle notre entrevue.
Un beau moment.
Aujourd'hui, on se fait plaisir.
Oui.
Ouais.
Oui.
On reçoit une star. Il n'aime pas ça qu'on dit ça, mais nous autres, on a le droit de le dire. Hein? C'est une star. Pour vrai. Je suis allé voir, moi, sur... toi, tu le connaissais, toi?
Ben oui.
Moi,
ben oui.
Moi, tout le monde me disait, Régent, tu connais pas Patrice Plante. Ben voyons, comment ça qu'il n'est pas venu à ton émission? Désolé, on se connaît sa peau, puis c'est vrai.
C'est là que ça se passe.
On se connaît aujourd'hui, Patrice, alias Monsieur Cocktail.
Bien, le bonjour, mon Reg.
Salut, hey, j'aime ça.
Sonia, je suis excité.
C'est hot, hein?
Mais je trouve ça le fun, le mot monsieur dans ton marketing, parce que t'es un monsieur. C'est hot ce que t'as fait.
Oui.
Puis non, mais
merci,
c'est vrai.
Merci, j'apprécie beaucoup.
Ben voyons, puis il faut le souligner. Tu sais, nous autres, c'est ça qui est le fun dans Jeunes Affaires. C'est qu'on reçoit tellement des gens qui ont des belles histoires. Des fois, on les connaît pas toutes. Puis là, on fouille un peu, on jase à « Hein? 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 » Puis on se relève, et maintenant, on est rendu en dessous de la table, on dit « Hein, attends un peu, on va se relever, on prend un... » Non, mais il y a des gens...
C'est tellement pertinent de parler du beau.
Ben oui, puis c'est le fun, puis c'est drôle, parce que toutes les photos qu'on voit de toi... Là, je vais lancer un défi à nos auditeurs. Envoyez-moi une photo de Patrice, pas de bonne humeur. Essayez de trouver ça, voir. Non, mais il n'y en a pas! Il a tout le temps sourire, il est tout le temps en train de faire la fête, puis c'est le fun parce que t'as une belle entreprise, puis t'as la vocation.
Ouais.
Pis là,
ouais.
Tu vas nous compter ça. Ça part de où quand t'étais petit?
Zéro.
Faisais-tu des drinks à papa et maman dans les parties? Comment? Non, mais on veut savoir, nous
autres. Ben non, pas en tout. Moi, je viens d'une famille purement québécoise, classe moyenne. On mangeait du pâté chinois. Puis j'ai connu la gastronomie sur le tard, comme je l'appelle. Là. Fait que, tu sais, moi, gnocchi, je pensais que c'était... un quartier russe jusqu'à 26 ans.
Noki.
J'ai pas eu de contact avant, je vous dirais, peut-être 23-24 ans avec la gastronomie. Je n'étais pas intéressé par l'alcool.
Ben,
je suis sorti dans mon premier bar à 27 ans.
Ben voyons donc.
J'étais pas attiré par ça. J'étais... Et je suis encore ce qu'on peut considérer être un geek. C'est-à-dire, je suis très geek dans mon approche. J'adore la connaissance, j'adore la lecture. J'ai découvert d'abord la cuisine. Donc, mon entrée dans le monde de la mixologie, ça a été vraiment via Distasio, via Ricardo. J'ai commencé à cuisiner dans mon premier appartement pour faire plaisir à ma douce de l'époque. complètement tombé en amour. J'ai commencé à travailler au Voir à la fin de ma vingtaine avec David Desjardins comme critique resto.
Ouais, j'ai lu ça.
Tombé en amour avec le monde de la restauration. Et là, à 30 ans, je me suis dit, bon, ben je laisse tout ça puis je m'en vais étudier en cuisine. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai travaillé au gouvernement toute ma vingtaine, mais dans le monde du web.
OK, fait que t'étais un fonctionnaire.
J'étais un fonctionnaire qui a décidé de se lancer...
Créatif.
Ouais. Ouais. Qui a décidé de se lancer en restauration à 30 ans alors que tout le monde s'en allait. C'est et moi, j'ai commencé à 30 ans et j'ai été happé rapidement par ce monde-là. Je trouvais ça fabuleux. C'est rare quand ça va pas que tu vas au restaurant.
Ouais.
Les gens sont tout le temps heureux, sont contents d'être là.
Oui.
On célèbre une autre journée sur la planète. C'est souvent ça que je dis, c'est tellement un beau monde. Cette adrénaline-là m'a happé, mais j'ai vite compris que la job de cuisinier vers ce quoi je m'en allais, c'était beaucoup de couper des légumes pendant 14 heures dans un sous-sol mal chauffé avec deux personnes qui ne veulent pas t'entendre. Et j'avais besoin de ce contact humain-là, moi, et je suis rapidement allé en service.
T'as sorti de la cuisine?
J'ai sorti de la cuisine. À l'époque, j'avais démarré un projet avec, vous en entendez beaucoup parler, de ce beau monsieur-là, John Mike, Jean-Michel Leblon, qui a gagné Chef de bois. On a démarré Trip et Caviar en 2011. Jean-Michel prenait la cuisine. Moi, je m'occupais de nos invités en salle. Et là, je suis tombé un soir. On a voulu faire des accords, mes cocktails. Puis je me suis dit, waouh, un bartender, dans le fond, c'est un cuisinier liquide. Il fait de la cuisine, mais devant le client. Et il y a ce contact client-là qui me manquait en cuisine. Puis c'est là que j'ai décidé de faire le saut comme un cave, de loader mes cartes de crédit pour faire le tour du monde, aller dans les 50 meilleurs bars. J'ai fait ça.
À quel âge?
30-31.
Aïe,
aïe. J'ai 25 000 sur ma carte. Je suis allé au Japon, en Europe, San Francisco.
Mais là, tu t'es fait une liste. T'es fou, Red. Tu t'es fait une liste. T'as dit là... Je m'en vais dans ces 50 bars-là.
Mais une liste approuvée par Anthony Bourdain. Je suis toujours un grand, grand fan de Maître Bourdain.
Ouais.
D'ailleurs, mon nouveau livre qui va sortir bientôt, c'est une citation de lui qui est au début de mon livre. Je suis un grand fan de Bourdain et Bourdain avait fait une liste de ses 50 bars préférés.
T'as dit, je vais.
J'ai fait la liste du New York Times puis j'en ai fait une vingtaine facilement là-dedans pour apprendre le métier sur le tas, parce que j'ai toujours aimé apprendre sur le tas. J'adore le syndrome de l'imposteur que ça l'apporte. Et donc, je m'assoyais au bar, puis je mitraillais les bartenders de questions jusqu'à 3 heures du matin. Je notais ça dans mon petit calepin. Puis l'aventure a commencé comme ça. Et à 30 ans, je suis allé faire l'entrevue pour le restaurant Atelier qui ouvrait sur Grande Allée. Avec plein de kids qui avaient déjà travaillé en restauration. Moi, c'était ma première fois. Je connaissais pas Maître D. Je connaissais absolument rien. Mais je m'étais pratiqué le Tom Cruise à maison, comme on dit.
Puis, oui, tu étais habile avec...
Non. Je dis tout le temps, c'est très drôle parce qu'au début, ça s'appelle le flair, donc de jongler avec les bouteilles.
Ouais, ouais.
Puis là, je faisais ça dans mon lit, dans mon appartement. Ça n'a jamais marché.
J'ai
vite compris que j'étais vraiment un cuisinier du verre et non pas un gars de cirque. Disons ça comme ça.
Je te ramène dans ton voyage, c'est sûr que tu as des anecdotes croustillantes, voire des souvenirs impérissables dans ton petit journal de bord. Là, il y a sûrement quelque chose.
J'aurais tellement aimé ça l'avoir encore, mais je me l'ai fait voler,
petit
journal-là.
Ben non.
Ouais, une journée de tournage, je l'avais apporté parce que toutes mes notes, toute ma création était là-dedans. Une journée de tournage chez Pierre-Yves quand on a fait l'émission du Bon Mix en 2015, puis j'ai jamais retrouvé mon agenda.
Ben voyons donc. Journal, ta bible du cocktail. Fait que c'est pour ça que là, après, tu m'as produit des livres.
Mais oui, c'est ça, exactement. Mais oui, écoute, ça a été un gros deuil parce que c'est toutes mes premières expérimentations, mes premières idées. Puis ça a été, tu sais, moi, dans le fond, j'allais en auberge jeunesse. Il fallait que ça me coûte vraiment le moins cher possible. Je mettais tout l'argent sur les cocktails. Tu sais, j'ai une soirée à Londres qui m'a coûté 700 livres. Là.
Ça, tu t'en souviens, même si t'as plus ton livre. Ton cocktail préféré, toi, c'est quoi? De cette expérience-là?
Ah, de cette expérience-là, mon Dieu. Ça a été le dry martini au bar Connaught à Londres. C'est la première fois que je voyais un dry martini servi comme ça. Le gars est arrivé à notre table avec sa petite desserte là, qui roulait.
Qui faisait quick.
Et il m'a demandé comment j'allais. Il m'a demandé quel genre d'émotion je voulais avoir avec ce cocktail-là. Et je me suis rendu compte qu'on n'appelait pas le dry martini King Cocktail pour rien. C'est le roi des cocktails. C'est que trois ingrédients parce que la version originale, il y avait de l'amère à l'intérieur. Donc, lui, il y avait ses 40 bouteilles d'amère. Et il sélectionnait un zeste en fonction de la saison, en fonction de ce que je voulais vivre. Il m'a demandé c'était pourquoi j'étais en voyage, etc., etc. Ça a été une expérience fabuleuse.
Wow. Fabuleuse. Comme quoi, tu sais, dans le souvenir d'un cocktail, il y a toute l'expérience puis le moment présent. Mmh.
Puis aussi mon premier whisky highball, qu'on appelle le Japanese highball, à Tokyo. Le gars a pris 15 minutes pour me servir un verre avec de l'eau pétillante, du whisky et de la glace. Et c'était, encore aujourd'hui, c'est une de mes plus belles expériences. Je suis un gros fan du whisky highball, vraiment.
T'es en train de me dire qu'un whisky, mais ça de si tu prends un whisky, puis là, tu me corriges, OK, moi, je suis complètement, pas néophyte, je suis amateur, mais un whisky, mettons, on va prendre un whisky de belle qualité, tu peux presque pas mettre de l'eau pétillante. Non, mais...
Ça dépend, hein? Tu sais, je veux dire, on peut tout faire dans la vie.
Ouais.
Si on me dit, Pat, voici un whisky 40 ans...
Ouais.
Fais-moi un cocktail avec, je vais faire « Es-tu sûr?
Okay. »
Tu veux-tu vraiment aller là? Parce que ce whisky-là...
Tu me rassures.
Ce whisky-là, il a dansé dans un fût pendant 40 ans. Il y a quelqu'un qui l'a caressé. Mais par contre, le Japanese highball, le whisky highball, c'est une classe à part. Tu peux mettre un très bon whisky là-dedans et vraiment l'élever.
Ah oui?
C'est sûr que encore une fois, là, t'sais, on ne mettra pas un Hibiki 18 ans, mais un 10, 12... dans un whisky highball, n'importe quand.
Ah, ouais.
N'importe quand.
Ah, ben vois-tu? Ouais. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent des fois, puis moi, je m'inclus là-dedans. On a tendance des fois à dire, ben on veut pas diluer, hein? On veut pas diluer le produit. Tu sais, il y a certains rhums ou whisky ou scotch, à la limite, tu mets pas une glace là-dedans, parce que là, tu te fais quasiment regarder de travers.
Absolument.
Puis,
ben tu sais, la mixologie, à la base, ça a été inventé au début du 19e siècle. Et pendant la Prohibition, la mixologie a changé de vocation. On a utilisé l'art de la mixologie pour camoufler le piètre alcool que les gens consommaient à cette époque-là.
Ah, parce qu'il part de là.
Ben, ça part de là. Comment on voit la mixologie, puis moi, c'est comment je le vois, c'est il y a un côté, on va essayer de faire des choses merveilleuses avec des ingrédients qui sont médiocres, un peu comme la cuisine mexicaine. En général, c'est un petit peu ça.
Ouais.
Et t'as l'autre côté qui est plus la cuisine italienne, c'est je vais essayer de prendre le meilleur ingrédient possible, puis je vais essayer de l'élever pour l'amener ailleurs, tout en le respectant. Fait qu'il y a vraiment les deux côtés. Puis moi, je suis pas d'une école ou de l'autre. J'aime jouer dans les deux camps. Et je pense que ça prend juste une ouverture.
Ouais.
Ça prend une ouverture. Oui, on veut pas diluer, mais souvent, avant de dire « je veux vraiment prendre mon gin sec » puis tout, je pense qu'il y a de l'éducation à faire sur la fabrication de l'alcool. On oublie souvent qu'on met l'alcool sur un piédestal, mais le trois quarts de l'alcool qu'on boit est fabriqué de façon très industrielle. Il n'y a aucun art en arrière
avec
de ça. Et pas nécessairement avec du sucre, mais juste de l'alcool qui est fait de façon industrielle. On met des arômes, on met ça dans une bouteille, ça n'a jamais vu un alambic. Fait qu'on oublie souvent, tu sais, les grandes compagnies vendent quand même des millions et des millions et des millions de caisses par année.
Je pense pas
qu'ils font ça dans un petit alambic de 50 litres avec un... On s'entend.
C'est pas très artisanal.
Mais on met vraiment l'alcool sur un piédestal. Donc, même si l'alcool est délicieux, le whisky, ça, on doit le donner. Les rhums vieillis, ça a été vraiment vieilli. Ça a été pensé. Il n'y a pas eu de raccourci là-dedans parce que c'est des appellations contrôlées.
Un peu comme les vins.
Mais moi, j'aime beaucoup jouer avec le cocktail parce que c'est comme la nourriture. Fait qu'on peut décider de prendre une tomate ancestrale puis de la manger straight pipe comme ça avec du sel puis une bonne huile d'olive, mais on peut aussi faire une sauce avec.
Ouais.
Fait que c'est la mixologie, pour moi, c'est les deux.
J'aime quand tu dis que c'est comme un cuisinier en arrière d'un bar.
Ouais.
Avec les
J'appelle souvent ça de la cuisine liquide.
Ben oui, c'est de la cuisine liquide.
C'est pour ça que je vais plus large que les spiritueux, que je m'intéresse à la bière, au vin, au sans-alcool, au thé, au café. T'sais, pour moi, c'est...
Tout ce qui se boit, finalement.
Exact.
Mais exactement. Parlons-en de tes sans-alcool, parce que je t'entends parler des spiritueux. Est-ce que, justement, c'est pour l'amour du goût, de la qualité du produit que tu es revenu à l'essentiel de qu'est-ce que ça goûte dans mon verre puis qu'est-ce que je vis en ce moment avec mon petit drink non-alcoolisé, mon mocktail? Est-ce que c'est l'amour de la recette qui t'a ramené à crée une collection de sans-alcool?
C'est beaucoup de choses. Ça a commencé, tu sais, j'ai eu un diagnostic d'hypertension. Puis là, moi, quand il m'arrive quelque chose dans la vie, ben je suis comme, OK, qu'est-ce que je peux faire?
Fait
que
c'est
là,
un signe. Tu es très sensible au...
Je suis très sensible aussi à ma santé en général. Fait que ben, c'est épatement, j'essaie de slacker un peu la viande, le café, essaye de boire moins d'alcool, puis on s'entend, moi, c'est ma profession, fait que je bois de l'alcool quotidiennement. Là. Pas dire que je vais prendre un verre, mais je goûte. Bon.
Ben
et,
oui.
Et ça a commencé avec ça. Après ça, j'ai été papa et j'ai dû, à 3 grossesses successives, faire preuve d'inventivité pour ma chère conjointe et la suivre un peu là-dedans. Et après ça, j'ai commencé dans ce processus-là à me poser des questions. Je me suis dit... Quand je bois un Campari Soda, quand je bois un cocktail, c'est quoi qui me fait triper? Et je me suis rendu compte que c'était pas l'alcool.
C'était le goût. Ouais, hein?
Et je me suis dit, est-ce qu'on est capable d'arriver à cette complexité-là? Parce qu'on s'entend, une boisson gazeuse, c'est pas complexe, c'est très simple. On peut-tu arriver à cette complexité-là dans les saveurs? On peut-tu utiliser des plantes, des racines, avoir quelque chose de bon? Mais pas besoin d'avoir d'alcool à l'intérieur. Fait que ça a été ça, ma ligne directrice. Et moi, je bois encore, bien entendu. Je voulais créer une marque. Je voulais créer une identité pour ceux qui boivent encore.
Mm-hmm.
Fait que je bois encore, mais je m'intéresse au sans-alcool. Je suis curieux. J'ai besoin de prendre un peu de sans-alcool dans ma semaine ou pendant une soirée pour créer un petit peu un équilibre. C'est pour ça que notre slogan, c'est bien balancé. C'est comment je fais pour bien balancer ma vie, que ce soit le travail, la famille... la santé physique, la santé mentale, l'alcool et le sans-alcool. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a amené. Et je suis tombé vraiment, vraiment dans une espèce de comment qu'on dit ça, là, la petite Alice au Pays des Merveilles. Là. Je suis tombé dans le rabbit hole, là, si on veut. Désolé, moi l'anglicisme. Mm-hmm. Et j'ai vraiment commencé à triper beaucoup puis essayer de faire des produits qui ressemblent beaucoup à l'équivalent alcoolisé, mais sans la brûlure, là, sans le feu de l'alcool.
Moi, qu'est-ce qui me fait peur quand on me parle de sans-alcool? J'adore ça en passant, là, mais qu'est-ce qui m'énerve un peu, c'est que je le bois trop vite, on dirait. Non, mais je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais quand tu prends un verre non-alcoolisé, on dirait que tu le cales quasiment. D'abord, c'est bon, hein, c'est des produits de plus en plus. Ce qu'on boit aujourd'hui, tu peux peut-être nous en parler. C'est excellent.
T'as Amaretto Sour à la pêche et au canneberge.
Tabarouette, c'est délicieux. Ouais. Là. J'ai ça dans les mains, moi, je capote. Mais j'ai l'impression que je vais le caler. Là.
Ouais.
Mais si je savais qu'il y avait de l'alcool, mettons un 3, 4, 5 ben, tu sais, j'irais mollo. Tu sais, je me dirais un verre à l'heure.
Mais c'est peut-être...
C'est ce que je dis?
Mais ben, c'est
rire,
drôle,
là.
Oui. Oui, je ris parce que je reviens là à même l'essence même de mon approche en événementiel, c'est de prendre le moment.
Ouais.
C'est que chaque moment devienne un événement. Donc, si on a envie d'y aller vite parce qu'il n'y a pas d'alcool, tu te dis « c'est pas dangereux », de te poser la question, t'es-tu dans le moment?
Ben,
t'es-tu
mains...
en train de profiter de ce moment-là? On prend des bulles pour fêter X, Y, on prend une bière après une bonne journée, il a fait chaud. Bonne game d'hockey. Mais je trouve qu'il y a toute une éducation, puis tu es là-dedans à fond, là, démocratiser, ouais. Éduquer, apprendre aux gens à mieux boire. Là on est d'imprimeur, on a un petit drink de Noah, mais on a aussi ton livre, on va en parler tantôt. Mais
ouais.
À quel point les gens, quand il y a du sans-alcool, on est encore un peu frileux, on le voit en événement, on offre un premier drink sans-alcool, les gens nous ont déjà dit « non merci, ça va ». Non, merci. Non, il n'y a pas d'alcool. J'aime mieux aller au bar me prendre un verre de vin.
Oui.
Parce que je pense qu'il y a toute une éducation à déguster le moment. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là.
Absolument. Puis c'est aussi la façon de le servir. C'est que la canette, elle est très facile d'utilisation. Elle est très agréable pour ça parce que c'est en canette. Mais normalement, quand on boit quelque chose en canette, on le boit vite.
Oui.
Même une bière, ça se boit vite.
Ben ouais.
Mais là, l'amaretto sour que tu as dans les mains, ben, tu pourrais le servir dans une belle coupette ou un verre avec un cube de glace bien froid. Tu peux te mettre un petit zeste toi-même. Puis là, t'es dans le même univers, t'es dans le même panache social qu'un cocktail alcoolisé. Puis peut-être que c'est une façon de pirater le cerveau puis se dire, waouh, j'ai un beau verre, j'ai une belle glace, je vais prendre le temps, je vais le déguster. Puis l'autre raccourci, c'est d'y aller aussi. Nous, on a, dans la gamme Noah, on a des sans-alcool qui ont été faits avec des racines de gentiane, de quinine, des épices complexes qui sont inspirées de l'apéro à l'italienne. Ces cocktails-là, tu ne peux pas les boire vite. Ils sont amers comme les cocktails alcoolisés. C'est très Negroni, c'est très Spritz. Et ça, c'est super intéressant parce que dans nos panels de goût, là, dans nos tests, les gens, en fait, ça goûte l'alcool. Mais en fait, c'est un placebo parce que c'est tellement amer qu'on ne peut pas croire qu'un sans-alcool goûte autant l'amertume, puis goûte autant les plantes et les épices.
Bon point. Deux bons points. C'est deux excellents points. Prendre le temps. Puis aussi d'aller chercher vraiment le parce qu'ils ont travaillé fort pour sortir ces breuvages-là, ouais. Même s'ils n'ont pas d'alcool. Fait que là, tu te dis, ben, prends le temps, toi aussi, de le déguster.
Crée-toi une mise en scène.
Ouais. Puis réalise. Non, mais réalise ce moment. Non, j'aime ça. Ouais. Je suis content. J'aime ça parce que c'est ça l'avantage aussi de recevoir des gens de tous les milieux, c'est d'apprendre.
Puis là,
nos auditeurs apprennent aussi, là.
Mmh. On parle beaucoup de cocktails. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a deux personnages? Il y a Patrice Plante et il y a M. Cocktail.
Ah, ouais.
Merci de me saisir.
Parce qu'on jaserait de quoi avec Patrice Plante? Là, on a une belle intro, on a toutes nos petits Noah à main.
T'es pas mal bonne, je trouve, notre question.
Ben écoute.
Non, mais
c'est vrai, ça a toujours été, tu sais, mon branding de God Bar est beaucoup plus fort que mon branding d'entrepreneur.
Ouais.
Ou mon branding de philanthropiste, si on veut. Fait que c'est sûr que, veut pas, avec moi, ça tourne, puis c'est bien correct, là. Je veux dire, j'ai une passion éternelle pour tout ce qui se boit. Là, on pourrait juste parler de café pendant une heure. Ça n'a même pas rapport avec
On pourrait faire 10 podcasts. T'es en train de me dire, toi, là, qu'on pourrait faire un podcast avec plein d'entrevues sur...
Tellement. Puis jusqu'à 600 sont réglés, Reg.
Oui, c'est ça.
Mais oui, il y a une dichotomie, c'est sûr et certain. Puis on s'entend, je suis quelqu'un qui est... Je pense qu'une de mes plus grandes passions en ce moment, c'est l'équilibre, c'est comment se retrouver dans la société moderne qui nous demande d'aller plus vite, de produire plus vite, comment aller chercher notre bonheur là-dedans. C'est quoi vraiment l'essentiel de... Qu'est-ce qu'on devrait optimiser pour mieux vivre?
C'est Patrice qui nous parle?
C'est Patrice. Dans tes soupers d'amis, là, on jase de ça. On essaie de se recentrer sur l'essentiel.
La famille nucléaire versus l'ancienne façon en communauté, le fait qu'on s'aide de moins en moins, qu'on est isolé, ça cause beaucoup de détresse. Comment socialiser, c'est important. Les relations artificielles versus... notre cercle, là, nos 6-8 amis, là, qu'eux autres, il faut les voir souvent. Ça tourne beaucoup autour de ça. Comment qu'on va chercher le bonheur? Je m'intéresse à toutes ces études-là sur le fait que si vous restez dans le même pâté de maison qu'un couple de bons amis, ben vous augmentez votre espérance de vie. Tu sais, plein de... Comment on peut enrichir la vie moderne à contre-courant? Ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup en général. Parce que mon métier d'entrepreneur m'amène à vivre beaucoup dans le futur. Je pense toujours... tu sais, moi, je suis déjà à l'été prochain. Dans ma tête, mais ça me met à réfléchir aussi sur la société. J'ai des enfants, ça galvanise ces réflexions-là. Oui. Absolument. Fait que oui, là on ouvre une méchante boîte de Pandore.
Parce que tu disais que tu étais geek, dans le fond, tu sais, côté socialisation, tu sais, t'apprends sur... le monde en général, la vie, en lisant, en regardant un peu ce qui se passe, est-ce que justement, quand tu étais jeune, tu avais ce souci-là d'analyser les gens ou de voir un peu comment ça se passait? Là? L'enfant, Patrice Plante, là, est-ce qu'il était sociable ou il était geek, justement? Puis
réservé?
Réservé, autodidacte dans ses jeux?
J'ai été très réservé. J'ai été victime d'intimidation au primaire. J'ai passé tous mes week-ends à la bibliothèque de 6-7 ans à 13 ans. Je demandais à ma mère de m'amener là. J'ai lu tous les livres. Mais j'avais quand même un petit côté social qui était en dormance. J'aimais beaucoup quand mon frère invitait des amis à la maison. Oh. J'avais mes propres amis aussi. Mais je me posais pas nécessairement des questions aussi profondes. Mais sans le savoir, comme une éponge, j'ai tellement lu.
Ouais.
Que ça m'a beaucoup apporté à définir puis à complexifier ma personnalité, je pense.
C'est ça qui t'a donné le goût d'écrire?
Toujours, oui. J'ai écrit un roman à 24 ans là, que j'ai jamais montré à un éditeur. Mais avec mes livres de cocktails, j'ai toujours des petits côtés plus romancés, le fun. Je m'excite toujours plus au début parce que oui, ce désir-là d'écrire est très, très, très présent. J'adore écrire dans une autre vie. Je me serais inscrit en littérature comme prévu, puis j'aurais été romancier, je pense.
Ça, c'est une confidence, là, ouais. Je pense.
Ben,
là,
je pense que oui, on a ça, là, nous autres. Ouais, ça. Ouais.
L'imprimeur, on a dit, c'était une entrevue remplie de primeurs.
On a trois, quatre primeurs encore. Dis-moi, Pat, yes. On parle du petit gars qui lit beaucoup. Tu sais, on donne souvent des conseils à nos jeunes, à les gens qui nous écoutent. La lecture t'a amené l'homme que tu es aujourd'hui. T'sais,
tout à fait.
Tantôt, on disait, Sonia, t'as posé la question, c'est-tu parti de là, l'écriture? Tu dis, j'ai fait un roman à 24 ans.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui t'empêche? Trouves-tu que t'as trop l'étiquette du monsieur cocktail pour écrire un livre sur les baleines?
Ah non,
tu comprends mon...
Ben, pas du tout, c'est sûr que...
Tu t'empêches pas, là, de...
Non, c'est sûr, okay. c'est important, par contre, de focusser sur quelque chose pour que les gens s'attachent à toi d'une certaine manière.
Mais là, on est déjà attachés, là.
Mais non, je dirais, le roman que j'ai écrit à 24 ans, j'avais pas assez vécu.
Ouais.
Donc, mes personnages n'étaient pas assez complexes. Je l'ai relu à tête reposée.
Tu étais dans le syndrome de l'imposteur, là. Tu dis,
beaucoup, hein, mais surtout, tu sais, comme j'ai dit, j'ai sorti dans un premier bar à 27. J'étais très casanier. J'ai pas vécu. J'ai fait mon premier voyage à 29 ans. Il me manquait de vraies interactions, d'intérêt pour l'autre, de discussions profondes, tout ça, je pense, pour aller au prochain niveau, parce que après la lecture, je me suis rendu compte que les personnages étaient beaucoup... C'était que toutes des petites facettes de ma personnalité, mais il n'y avait pas de recherche plus profonde, plus que l'histoire. Mais ça a été un beau trip, ça a été un bel exercice de discipline aussi. On oublie souvent que 95% du succès, c'est de la discipline. Mais se lever à 5h du matin, tous les matins, pour écrire... Passer les midis à réviser ce que j'avais écrit le matin pendant 6 mois en ligne.
Wow.
Ouais.
Parce que là, on parle d'un sixième ouvrage.
Hey,
wow, oui. Félicitations. Merci. Puis t'es quand même, on dira pas l'âge, là, parce que, en tout cas, si tu veux le dire, tu nous le diras, mais t'es pas vieux, là.
41.
Six livres, 41 ans. C'est quelque chose, là, c'est wow. Puis Dieu sait que t'as pas fini.
Non. C'est livre en 9 ans. C'est quand même fou.
Mais c'est quelque chose.
Mais c'est comme 3 enfants en 4.
Ouais, c'est ça aussi.
T'es comme intense.
T'es comme, c'est ça, tu me fais peur.
Faut être intense, surtout que j'écris mes propres livres. Hein. C'est rare les auteurs en gastronomie qui écrivent leurs propres livres. Fait que, tu sais, moi, c'est des mois d'investissement dans une année quand je lance ça. Puis ce livre-là, j'ouvre une autre boîte de Pandore, mais ce livre-là a quelque chose de très important pour moi parce que j'ai commencé à l'écrire puis j'ai été fraudé cette semaine-là. Fait que j'ai écrit ce livre-là malgré le fait qu'on était victime d'une fraude du président puis qu'on était en mode urgence. Fait qu'il y a un côté très précieux pour moi parce que j'ai gardé le focus. J'aurais eu toutes les excuses du monde pour ne pas le sortir.
Mais je pense que tu as voulu garder le beau, là. On parlait de ça, là.
Oui,
le positif.
Parce que ça, je l'ai entendu, cette histoire-là. Je ne te connaissais pas.
Oui.
Puis, tu sais, moi, j'ai eu 13 entreprises. J'ai tout le temps été dans le monde des affaires. Je me disais tout le temps, aïe, aïe, comment nous, comme entrepreneurs, on aurait réagi? Tu sais, parce que quand tu entends une histoire comme ça, tu dis, tu essaies de te placer.
Comment moi, j'aurais été, tu sais.
Ben oui, parce que c'est facile de dire, moi, c'est bien, lui, puis elle, puis l'autre. Puis... Non, non, attends un peu. T'es entrepreneur, ben mets-toi dans ses souliers.
Ouais.
Vis ce qu'il vit, puis comment toi, t'es. Ah, il se capotait. Tu sais, j'entendais dernièrement à une autre échelle, on va dire, Ginette Renault qui expliquait que des millions et des millions et des millions de dollars fraudés par un agent, par des gens. Elle les a pas nommés, elle était très classe. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est des entreprises, des artistes aussi.
Oui.
Oui, ben oui, absolument.
Hein, quand tu vis ce genre de situation, ben c'est...
Comment tu étais à l'annoncer de la nouvelle,
Ben, au début, moi, j'étais en mode solution. J'ai tellement vécu de stress dans ma vie. J'ai fait de l'événementiel à des niveaux très perturbants.
Et j'aime avec des
drôles de clients, mettons. Fait que, tu sais, moi, comme j'ai toujours
vous comprenez.
Dit... j'ai dit, regarde, moi, j'ai déjà eu un client en crise, genre une espèce de... une crise psychologique majeure. Il y avait des médias sur place, puis... J'ai géré ce genre de choses-là. Fait que pour m'impressionner, il faut vraiment que ce soit rock'n'roll. Il faut que le feu soit pogné avec des extraterrestres.
Fait que ça, c'était pas le feu pogné avec des extraterrestres?
Et donc, moi, quand ça s'est arrivé, ben, au début, j'y ai pas cru. J'ai dit, c'est sûr, je vais avoir de l'aide. J'ai dit, c'est sûr que...
Je rêve, là. M'a peut-être me réveiller tantôt.
Mais je veux dire, je me suis mis en mode solution. Ouais. Appeler la police, appeler le centre de fraude. J'ai dit, OK, on va faire ça. On va leur avoir notre argent, ça va aller bon. Ça a été les premières 24 heures où là, je me suis réalisé, je me suis fait dire que non, je ne reverrai pas mon argent. Et on est en mode confidence, là, mais c'est la seule et unique fois que j'ai braillé ma vie depuis le début de mon aventure entrepreneuriale en 2015.
Je comprends.
C'est quand même... faut mettre en perspective. Tu sais, moi, je suis pas là pour l'argent. Ça l'aide beaucoup.
Mm-hmm.
Mais j'ai quand même perdu mes 7 années d'efforts.
Ouais, c'est
en,
ça.
En 3 heures.
C'est ça
moi,
j'en
commence
belle.
À zéro. Ben oui, ben tous les profits accumulés, ce que j'ai mis de côté, ben on repart à zéro.
Mm-hmm.
Puis ta confiance vis-à-vis les systèmes,
ouais.
Comment elle se porte-t-elle?
C'est une grosse question parce que je suis un idéaliste. La race humaine, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on est basé sur ce mot-là. La confiance. Parce que rappelons-nous que l'argent n'existe pas. Le processus judiciaire n'existe pas. C'est toutes des inventions humaines.
C'est nous autres
et
qui
le fait que ça tient ensemble, c'est qu'on fait confiance à ces institutions-là.
Mm.
C'est important de garder la confiance. Il y a beaucoup de gens et d'institutions qui prennent de malins efforts pour nous enlever cette confiance-là. Mais je pense qu'il faut la garder. Il faut continuer à être optimiste. Il faut continuer à penser qu'on veut l'améliorer. Il faut essayer de se combattre à chaque jour contre cette espèce de je veux pas dire un miasme, là, mais on se détache, on veut devenir indifférent. Mais je pense qu'il faut continuer à croire qu'on n'est pas tout seul à être optimiste puis avoir confiance. Fait que c'est sûr que... Si tu me remets 24 heures après, ma confiance n'était pas haute, là, d'une échelle de 1 à 10. Mais après coup, il y a des mains qui se sont tendues, puis il y a des choses qui se sont faites. C'est sûr qu'on est très... Moi, en plus, je suis propriétaire unique, fait que c'est sûr que je l'ai vécu d'une autre façon. Là. J'avais personne, j'avais pas d'épaule vite comme ça sur qui me poser, sauf mon bras droit, JC, qui est arrivé au bon moment dans ma vie. Il est arrivé 2 mois dans l'entreprise avant la fraude. Une chance qu'il était là. Le reste de mon équipe, ceux qui sont restés.
Mm-hmm.
Fait que c'est sûr que ça te rappelle toujours qu'il y a quelque chose de beau, mm-hmm. même dans l'adversité. Puis moi, mon cerveau est comme ça. J'aime le positif. J'aime
t'as
voir
de ça,
le bon côté.
Mais tu t'en sers comme...
C'est parce que dans
comme
le fond,
levier.
Parce que dans le fond, j'essaie d'enseigner ça au plus de gens possible autour de moi. La seule chose que tu contrôles, c'est ton attitude.
Mmh. Comment tu réagis?
Tu contrôles pas comment les gens te perçoivent, tu contrôles pas comment quelqu'un vit tel défi, mais tu contrôles comment tu vas réagir.
Mmh.
Et c'est juste une question de comment tu réagis à une situation. Puis c'est, j'aurais pu laisser tout ça aller, puis
ben
ça,
oui.
ça aurait été correct aussi, mais...
Ben oui, puis ça aurait été très respectable quand même. Il y a bien des gens qui abandonnent pour moins.
Mais c'est... tu sais, on est tous humains là-dedans. On a tous des limites. Faut les connaître. Mais juste de te réveiller avec la bonne attitude, je pense que ça change tout. Et je le répète, là. L'argent ne fait pas partie de mes valeurs. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Parce que moi, l'argent de mon entreprise, c'est du Monopoly.
Oh, oui, je comprends.
Je suis pas là pour ça, tu sais.
Quelqu'un aurait été, mettons, un peu plus proche, on va dire, plus axé argent, profit, à ce moment-là, peut-être que le coût aurait été plus dur
ouais.
hein, pour cette personne-là.
Puis parce que j'ai toujours aimé cette approche-là. Là, c'est quand tu rentres en entreprise, tu t'écris une lettre, puis tu réponds à la question « Pourquoi?
Mm-hmm. »
Et cette lettre-là, tu la gardes quelque part puis tu vas la relire quand tu vis des épreuves pour te rappeler pourquoi tu es là.
Oh, j'adore.
Puis toi, t'as répondu quoi?
Ouais.
Moi, je suis là pour ma famille, ma gang, mes enfants, avoir du temps pour eux. That's it.
Ouais.
Je suis là pour ça.
Ton pourquoi en 2015, c'était quoi?
Mon pourquoi en 2015, je ne l'ai pas écrit. Parce que j'étais pas mature encore. Je savais même pas que j'avais
pourtant,
fondé une compagnie.
De livres.
Mais pas de livres en entrepreneuriat.
Non,
là.
Okay,
j'ai commencé à faire de l'événementiel. J'ai pris la balle au bon. J'avais déjà une entreprise à cause de mon agence d'artiste. Puis après un an, je me suis rendu compte qu'il fallait faire des états financiers, que j'avais pas le droit de payer mes employés avec des chèques, que j'avais pris aucune photo de tout ce que j'avais fait.
T'as comme tes cocktails
ouais,
en
ouais,
autour
ouais,
du monde.
Exactement.
C'est ça.
Tu goûtes. OK, il est bon, celle-là.
Patrice, sortir tes images de chèque, ça va te coûter 8 000 $.
Oh,
oh. Bobo! Hey, OK, on va aller shaker des drinks à Vegas pour payer ça. C'est pas drôle, mais... mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai... C'est ça, je ne savais pas. Mon grand-père Plante était propriétaire de dépanneur quand j'étais jeune, mais il est mort très jeune, donc je ne l'ai pas beaucoup connu. Mais l'entrepreneuriat ne faisait pas partie de la fibre familiale. Ce n'est pas un mot que j'ai prononcé avant 32 ans.
Ah, le mot entrepreneuriat,
tu sais. C'est un petit noir donc, confetti. On s'en souvient de ce petit bout-là dans l'entrevue avec Sonia. C'est qu'à un moment donné, on a dit « petit mouton noir ».
Petit mouton noir.
On l'appelle,
petit noir confetti. Comme mais quoi, là, des fois, ça fait partie de nous, mais on ne le sait pas. Ce n'est pas nécessairement une influence de nos parents d'être entrepreneurs, d'avoir cette fibre-là. Là, j'ai une question d'entrepreneur à entrepreneur là, qui me fatigue depuis un petit bout. Non, c'est pas vrai, pas tant que ça. 2015, tu te lances. 2018, on t'annonce jeune personnalité d'affaires dans ta catégorie, donc nommée du gala 2019, mais jeune personnalité d'affaires en 2018. Puis moi, à ce moment-là, il y a une question là, qui me titille. Là, je suis avec Patrice aujourd'hui, je peux y poser.
Ben oui, on a le droit, là.
On avait l'impression que tu étais connu. Là, je pense que j'ai ma réponse parce que depuis qu'on est ensemble, là, je viens d'entendre des choses, mais on avait l'impression justement que tu étais connu. Alors, pourquoi t'être inscrit au concours de jeune personnalité d'affaires? Est-ce que... Non, je te dirai pas réponse, mais j'ai envie de t'entendre là-dessus sur la visibilité que ça t'apportait par rapport à la démarche que tu avais déjà faite. On s'entend que toi, tu avais déjà beaucoup connu, de marches de fait sur le plan visibilité. Alors, qu'est-ce qui t'a interpellé là-dedans?
Bien, la bourse. 3 500 000 $. Je t'agace.
Hey, ouais, je l'aurais pris cette année. Ouais, non, en fait, c'est ça a commencé, ça. Ça vient de ma maladie, qui est mon amour de l'inconnu.
Wow!
J'aime revivre le plus souvent possible dans ma vie, puis c'est pour ça que je suis arrivé en entrepreneuriat sans savoir. J'aime me sentir comme le petit gars avec son sac d'école brun en cuir qui rentre au primaire pour la première fois.
C'est une excellente raison de le faire.
Je crois que la peur est ce qui me drive le plus. Mm-hmm. La peur, si tu passes à travers les émotions que tu as après...
Qui fait que
tu as
la peur.
Exact. Et donc, cet amour-là de l'inconnu, parce que moi, j'ai été... la peur m'a défini longtemps. J'ai pas essayé grand-chose avant 27 ans. Puis pourquoi 27 ans revient souvent, c'est que la mère de mon meilleur ami est morte subitement. Puis j'ai eu une longue discussion avec lui. Puis ce deuil-là était vraiment poignant. Puis j'ai juste réalisé que demain, ça peut être fini. N'importe qui.
À 27 ans.
Et là, je me suis dit, il faut que tu brasses la cage. Ouais. Il faut que tu mettes des pions que tu sèmes pour récolter quelque chose. Parce qu'à cette époque-là, j'aurais resté au gouvernement toute ma vie. Là, j'étais le petit geek gêné qui voulait pas trop sortir de sa bulle, qui voulait pas sortir d'un bar parce que ça lui faisait peur. Pas t'as peur.
Ah, ouais.
Et là, je me suis rendu compte que c'était une force, dans le fond. Et je me suis mis systématiquement, si j'ai peur de quelque chose, à le faire. Donc, 5 heures du matin, je suis en train de fermer le bar, on a une couple de barman puis de serveurs autour de la table, puis de serveuses. On commence à parler de nos peurs, puis là, il y en a une couple qui disent « parachute, moi, ça me fait peur ». On fait « ben moi aussi ». J'ai dit « on y va-tu demain ». Puis on est allé sauter en parachute le lendemain.
Ben voyons donc!
Ouais, on s'est fait une tournée à 10 heures, là, quand on était un peu buzzé encore, puis on est allé sauter. Et quand tu sautes, wow!
Ouais, hein?
Fait que ça, c'est une belle image pour dire quand
t'as peur de quelque chose.
Quand t'as peur de quelque chose, puis tu vas à travers tout ce que ça t'amène comme expérience,
comme
richesse d'émotions que tu peux vivre. Fait que le gala de jeunes personnalités, on m'a appelé. Là, on m'a juste dit, Pat, ça serait le fun que tu t'inscrives. J'ai eu quelques appels.
Parce que pour.
J'ai fait être un peu, il faut que je me rouvre, il faut que je parle de. Le discours que tu fais et le coaching que tu as pour ce discours-là, c'est une expérience inoubliable. Mm-hmm. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Tu t'ouvres devant ta famille, tes employés, tes amis.
Faut que tu pratiques ton texte.
Ça me faisait peur. Fait que j'ai dit pourquoi
pas. La salle est pleine, hein? C'est
soir
et là.
Avant d'être au discours, il y a la possibilité que tu sois choisi. Ça, c'est une première peur probablement.
Ouais.
Puis après, ben pour faire une mise en contexte, si Patrice s'est inscrit, c'est qu'il y a des gens qui le dénoncent. C'est comme un processus de dénonciation où là, la jeune chambre de commerce reçoit des candidatures qui seraient une excellente jeune personnalité d'affaires. Fait que là, c'est pour ça que tu as été appelé en disant « Ton nom a sorti souvent. »
Exact.
Puis tu as gagné ta barouette.
Ben, j'ai gagné, moi, j'ai gagné dans ma catégorie.
Oui, bien, c'est ça. Ouais. Cette année-là, c'était 2018.
2018, c'est une grosse année, 2018.
Mais je comprends. C'est qui a gagné, donc, la finale? C'est pas Anya Yokoka?
C'est Anya,
Tu sais pourquoi je me rappelle de cette année-là, 2018? Parce que moi, j'ai fait le 9 AVC au mois de juillet 2018. Fait que c'était vraiment une année...
Mais voyons, on est dans les confidences. Ben oui.
Ça a fait drôle. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Je veux savoir, mon grand-père, c'est ce qu'il disait, puis c'est drôle, parce que tantôt, tu as dit une citation de mon grand-père. Je ne sais pas si tu l'as connu. C'était peut-être un chum à ton grand-père dans le temps. Mais moi, je suis plus vieux que toi, par exemple. Un petit peu. Lui disait, on ne peut pas contrôler... tantôt, tu disais, c'était le fun, ta citation, pour reprendre tes mots, c'est qu'on contrôle un peu notre réaction, hein, puis comment on se relève ou comment on agit, puis comment on réagit finalement. Mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Lui disait, on ne contrôle pas le vent. On ne peut pas le contrôler, le vent. Mais on peut contrôler nos voiles sur l'eau.
Exactement.
Puis quand tu comprends le sens, parce que moi, il me disait ça, j'étais jeune, là, j'étais tout petit, vous comprenez pas. Mon grand-père dit n'importe quoi.
Oui,
je fais pas de bateau. Je fais pas de bateau. Puis le vent, là, quand il y a trop de vent, ben je mets ma tuque l'autre bord, en tout cas. Mais ça reste que c'est vrai ce que tu dis, parce que on contrôle pas, justement, mais on est capable de manœuvrer.
Puis dans la tempête, c'est justement comment tu contrôles tes voiles qui fait toute la différence, t'sais.
Fait que tu peux prendre cette citation-là dorénavant.
Bien sûr.
C'est mon grand-papa qui te la donne.
Merci, grand-papa.
Hey, c'est le fun, tabarouette. On va pas à la pause parce qu'il n'y a pas de pause.
Non.
Non, on a décidé, nous autres, c'est straight to the...
Il était en train de s'en aller vers une conclusion. Là. Il nous reste combien de temps? Ben, là, non. Parce qu'on peut passer l'après-midi ici.
Ouais, parce
là.
Que moi, j'ai aucune notion du temps. Quand je parle, c'est le fun.
Ben non, mais c'est à cause que moi, j'ai commencé en retard. Fait qu'on va finir en retard. Non, il n'y a pas question.
On n'a pas d'heure.
Il n'y a pas question qu'on mange du temps avec notre invité d'aujourd'hui.
J'ai d'autres questions. Wow, mais non, j'ai d'autres questions.
On a plein de questions. Mais ben vas-y, papier plein. Là.
Le nouveau papa, là.
Ouais.
La famille t'apporte quoi ou quel regard tu as maintenant sur ton entreprise?
Trois filles. C'est tellement différent. En fait, le Patrice qui s'est inscrit à la jeune chambre de commerce, là, jeune personnalité d'affaires, n'existe plus depuis que j'ai eu ma première.
Ben, t'étais pas papa en 2018, là, parce que tu me dis 3, 2, 1.
2020, 2021, 2022.
Ouais.
Fait que toi, t'as décidé de faire des bébés dans la...
Je sais pas, mais ben ça
non, on a commencé, en fait, Simone est née trois semaines.
Dans la voiture?
Non, je cherchais le mot pandémie. C'est le mot que je voulais pas dire.
C'est ça, on voulait pas le dire. Mais ça, c'est trois semaines avant le fameux...
Le fameux
mois de mars 2020.
Et
mais non, en fait, c'était notre but de couple, des avoirs très rapprochés pour qu'ils développent vraiment des atomes crochus, une complicité ensemble. Et le regard change complètement parce que ça ramène beaucoup à l'essentiel, les enfants. Là.
Ouais.
Rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je me suis dit, regarde, tu vois, là, l'essentiel, c'est de voir le plus longtemps possible, d'être présent. Puis là, ben, la première, tu as 100% de ton... Elle a 100% de ton attention. Après ça, 50. Après ça, 33. Oui. Donc,
c'est vrai, hein, ça?
Donc, moi, c'est... Dans le fond, tout le côté jet set de Patrice a fondu comme neige au soleil. Fait que maintenant, on me demande d'être porte-parole pour ci, faire telle conférence, puis c'est toujours non. Parce que c'est du temps que je vais perdre avec mes enfants.
Fait qu'on est chanceux de t'avoir avec nous autres aujourd'hui.
Ben non, ça va, les podcasts, les entrevues, mais
c'est
j'ai...
le fun. Mais c'est
le 9 à 4.
C'est le 9 à 4. Mes soirées sont rendues très, très, très importantes. Puis,
je te félicite, en passant, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ici. Entrepreneurs, eux aussi, il y a des femmes. Puis ils nous disent que c'est ce qu'ils regrettent le plus, souvent, c'est de ne pas voir justement grandir les enfants. Parce que quand on devient entrepreneur, c'est souvent... la famille prend le bord, on dirait.
Mais c'est que les heures comptent plus, mais d'un autre côté, ça t'appartient.
Ouais.
Ton horaire t'appartient. Moi, ta gestion des priorités t'appartient. Oui. Donc...
Mais t'as raison, puis il faut que ça reste. Mais il y a des gens qui nous le témoignent ici. que si c'était à refaire.
Mais moi, oui, ça a toujours fait partie de... j'ai beaucoup souvent entendu ce regret-là et oui. J'écoute.
Oui.
Et c'est une autre gestion. C'est-à-dire que moi, le matin avant 9h, puis entre 16h et 20h, je ne suis pas disponible.
Mm-hmm.
Je suis avec mes enfants. Puis s'il faut que ma journée aille 10h, finalement 12h, ben c'est après 20h. Je vais faire ça pendant que les enfants dorment.
Oh, wow.
C'est super important. Écoutez, mon entreprise est passée de 19 à 5 employés cette année mm-hmm. à cause de la pandémie, à cause de la fraude du président. Et j'ai pas eu de vacances. J'ai presque pas eu de week-end, mais j'ai toujours été avec mes enfants tous les jours.
Ouais.
Bravo. C'est une autre façon de voir. Moi, c'est une conférence de Luc Richard Poirier que vous connaissez sûrement. Là.
Ben oui.
Sa fameuse histoire de la voiture, mm-hmm. son petit gars qui a remis sa voiture. Moi, j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Mm-hmm. Ça m'a gravé dans mon cerveau.
Même pas d'enfant,
oui.
Imagine.
Mais j'étais proche, j'étais dans le processus. Ouais. Moi,
tu t'en venais là.
C'est ça. On cherchait la bonne et on cherchait le... J'étais rendu au moment familial dans ma vie et quand j'ai fondé Monsieur Cocktail, j'avais déjà la famille en tête. C'est-à-dire, là, je peux travailler 18 heures par jour, j'ai pas de conjointe, je peux me donner à fond, je peux pas compter mes heures, je peux avoir un petit salaire crève-faim puis juste manger du beurre de peanut. Et je construis quelque chose pour quand la famille va arriver, que là, j'ai le luxe d'être avec eux.
Mm-hmm.
Parce que c'est ça mon pourquoi.
Ouais.
Ouais.
Fait que c'était déjà prévu de commencer pendant que j'étais célibataire à bûcher. Écoute-moi, de 2015 à 2018, je vivais avec 17-18 000 par année.
Mais t'installais
ouais.
les fondations.
Tu préparais quelque chose.
Tu préparais une business exact. Bien solide.
Ben, je dis souvent, les efforts qu'on a faits, une fois qu'ils sont faits, ça compte plus. On s'en rappelle plus comment c'était tough.
Ben, mm-hmm. t'as tellement raison. Regarde les femmes quand ils accouchent.
Oui.
Non, mais c'est la fin du monde, là, parce que ça fait mal. Il y a ci, il y a ça. Puis là, bon, du coup,
le 24 heures plus tard, c'est hey, on fait ça, on en fait ça un autre.
Hein, bon, c'est vrai. Dis-moi, Patrice, tu me fais penser là, pendant qu'on parle d'accouchement. Non, c'est pas vrai.
Oui, c'est ça, on tombera pas là-dedans.
Ouais.
Pendant qu'on parle de livres, parce que ton histoire, même si t'es jeune, 41 ans, tu pourrais faire un livre sur ta vie?
Je pourrais. J'ai eu
sans prétention, là. Je veux dire, pas. Je dis pas ça pour que tu puisses. Puis je le sais, t'as pas l'air d'un gars du tout prétentieux, mais souvent les gens vont avoir ce réflexe-là. Hein? Pourquoi je ferai un livre, moi, sur ma vie? Je suis qui, moi, tu sais? Puis il y en a d'autres qui vont dire, ah, moi, j'ai hâte de faire un livre sur ma vie.
Ouais. Ça, c'est une question d'humilité ou non?
Ouais, mais moi, je trouve que t'as tellement. D'abord, t'as un super parcours capoté. Tu sais, déjà, de dire qu'à 0 à 27 ans, il n'y a rien d'excitant.
Très tranquille.
Tu l'as toi-même, pour très prendre tranquille. Tes paroles. Puis de 27 ans, aujourd'hui, tabarouette, il y avait du vent sur l'eau, là.
Ouais. Moi écoute, la trentaine, là, ça a été... quelle belle ride. Wow.
En tout cas, je te lance l'idée parce que, d'abord, t'aimes écrire, t'as lu beaucoup, t'as une belle personnalité, puis t'as une belle histoire. Je suis persuadé, moi, que ton livre, il ferait... En tout cas...
Mais c'est une belle idée. Tu sais, j'ai eu la lubie en 2018-2019. Je voulais écrire un livre sur l'entrepreneuriat. Tu sais. Je pensais avoir lu beaucoup puis en avoir beaucoup de connaissances à digérer pour...
Ouais.
Puis avec le recul, je suis comme... OK, non, j'étais vraiment pas... J'en avais pas assez derrière la cravate. Moi, j'aime beaucoup les Japonais.
Oui.
Puis les Japonais, là... Tu sais, mettons, un barman japonais, il faut qu'il fasse une technique de 3 ans. Puis ça prend 5 ans avant qu'il ait le droit de shaker son premier cocktail.
Ben, ça doit être l'enfer.
Ça prend du temps. L'expérience, il n'y a rien à part l'expérience qui peut équivaloir à l'expérience. Fait que je me dis, oui, j'ai beaucoup de choses à raconter, mais... Peut-être plus un projet de cinquantaine, je dirais. Ah. Moi, je me donne des objectifs à chaque dizaine. Hein.
C'est correct. Ouais. Fait que là, si 30 ans, c'est une bonne ride, ta quarantaine.
J'ai commencé ça à 30 ans parce qu'à 20 ans, j'étais pas assez là. Fait qu'à 30 ans, mon objectif, c'était la carrière. Je voulais me placer, je voulais découvrir parce qu'à 30 ans, je savais pas encore ce que je voulais faire vraiment. 40, c'est l'équilibre santé physique, mentale,
Être bien balancé.
Être bien balancé, exact. Cinquantaine,
ouais,
ben...
c'est quoi 50? Dis-moi, là, m'a essayé de reculer un voir pour la repogner.
Cinquantaine, je ne l'ai pas encore défini exactement, mais à partir de la cinquantaine, je pense que je vais être rendu au moment de redonner plus, puis de justement de partager ce que je suis capable de partager.
C'est drôle,
je
l'aurais deviné.
Pour partager l'expérience.
Je l'aurais deviné.
Un goal altruiste.
Tu sais, altruiste, beaucoup dans l'éducation, dans aider les autres avec ce que tu as comme expérience aussi, puis comme bagage, là, de voir toujours le positif. Dans les épreuves, fait que de pouvoir le partager, je pense que ce serait effectivement une très bonne idée.
Merci.
Pas obligé d'attendre 50 ans pour ça.
Pas obligé.
Ben non. Je pense qu'à chaque fois que tu t'ouvres la bouche, tu nous apprends quelque chose, tu éduques par ta sagesse.
Je suis persuadé que Fred, en arrière à la régie, va avoir plein de bons petits moments pour faire les teasers. Parce qu'à chaque entrevue, on essaie de sortir une petite phrase de 20, 30, 40 secondes pour faire les teasers. Et je suis persuadé que Fred en a plusieurs. J'ai goût de te laisser le mot de la fin, mais
ben,
avant,
oui.
J'aimerais ça d'abord te remercier.
Bien, ça me fait vraiment plaisir.
J'aime vraiment
j'ai
ça,
choisi,
avec toi.
J'ai choisi mon petit moment.
C'est le
mon
fun.
Petit moment festif.
En plus,
sans
un bel
alcool.
Cocktail, un gars d'événementiel. Ben. Noir Confetti, on peut te rejoindre où, toi, belle créature?
Eh bien, on m'appelle ou on m'écrit. Donc, Sonia at noirconfetti.ca. Sinon, sur le site internet noirconfetti.com.
Puis peut-être que les gens dans la jungle des affaires vont vouloir écouter ton entrevue.
Ben oui.
Qu'on
ben
a
oui,
fait
je vous
dernièrement.
Invite,
500
invite.
Quelques, on ne sait plus quel.
Oui, je pense que c'est 513 ou 14. Oui,
puis peut-être que tu vas être dans notre entourage pour le lancement du nouveau site Internet. Qui sait?
Qui sait? Qui sait?
Qui sait?
Patrice, avant de te laisser le mot de la fin, j'aimerais juste souligner le mot Monsieur Cocktail. Je trouve que tu es vraiment un bon monsieur. Un bon monsieur.
Merci.
Le mot monsieur te va très bien à la merveille. Alors, je te laisse le mot de la fin.
Surtout que j'adore les chapeaux. Écoute, mot de la fin, que dire? C'est la première fois qu'on me demande. Je dis tout le temps que les fins, j'ai toujours de la misère avec ça.
Ah. Parce que tu as peur de la fin.
Oh. Oui, c'est vrai, j'aime pas la fin. Ah. Faut pas qu'on mette la mort sur... C'est un gros podcast, ça.
OK.
Mais non, c'est vrai que j'aime pas les fins, j'aime pas. Je suis quelqu'un qui est très nostalgique.
Ah.
J'aime pas les fins. J'aime beaucoup le début, ouais. Le positif, là, l'excitation, les challenges, apprendre à connaître. Mot de la fin, écoutez, il y a tellement de choses à dire. Puis tu sais, c'est pas le mixologue qui parle, c'est pas...
Non, c'est Patrice.
C'est peut-être le Patrice, le papa, mais je vous dirais, essayez de prendre le temps. Arrêtez de consommer les choses qui divisent votre attention. Prenez le temps de rien faire, d'avoir des réflexions avec vous-même. Prenez le temps de lire un bon roman plutôt que de consommer de la nouvelle, peut-être. Les podcasts, c'est la plus belle invention des réseaux sociaux parce qu'on prend le temps. On va en profondeur, on manque de profondeur. Fait que je vous dirais, essayez de prendre du recul par rapport à vous-même, de vous...
Tu sais,
des fois, on lit un roman puis on vient de catcher quelque chose qui marchait pas dans notre vie juste parce qu'on a lu puis on s'est externalisé via ces mots-là. Fait que prenez du temps, prenez soin de votre gang. Rappelez-vous, c'est qui, là, votre gros nœud, là. Puis invitez-la toutes les semaines.
Ouais. Prenez le temps de prendre le temps.
Oui.
Voilà.
Hey, j'adore.
C'est la ligne de Noah, en plus, de Noah sans alcool.
Merci beaucoup, Max. Une belle rencontre. Max, voyons où.
On est au Max.
Maximum Pat.
Salut, Max, ça va? Appelle-moi Jacques. Patrice, merci beaucoup de ta présence, de ta générosité. Merci, Sonia.
Merci.
La gang, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir.
Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.